Chapitre 41 Fragment sur la descente aux enfers. Ma méditation se porta alors sur l'âme du Rédempteur, et j'eus une vision de sa descente aux enfers. Mais ce tableau était si riche en détails que je n'ai pu en retenir qu'une faible partie. Je vais la raconter du mieux que je pourrai. Lorsque Jésus rendit sa très sainte âme en poussant un grand cri, je la vis semblable à une forme lumineuse pénétrer dans la terre au pied de la croix. Plusieurs anges, parmi lesquels était Gabriel, l'accompagnait. Je vis sa divinité rester unie à son âme aussi bien qu'à son corps suspendu sur la croix. Je ne saurais dire comment cela se faisait. Le lieu où entra l'âme de Jésus était divisé en trois parties. C'était comme trois mondes. Il me sembla qu'ils étaient de forme ronde et qu'ils étaient séparés les uns des autres par des sphères qui les environnaient. Devant les limbes était un espace plus clair et plus serein. C'est là que je vois entrer les âmes délivrées du purgatoire avant qu'elles soient conduites au ciel. Les limbes où se trouvaient ceux qui soupiraient après la rédemption étaient entourés d'une sphère grisâtre, nébuleuse et divisée en plusieurs cercles. Le Sauveur, resplendissant de lumière et porté par les anges, comme en triomphe, passa entre deux de ces cercles, dont celui de gauche renfermait les patriarches antérieurs à Abraham. Celui de droite, les âmes des justes qui avaient vécu depuis Abraham jusqu'à saint Jean-Baptiste. Ils ne reconnurent pas encore le Rédempteur, mais furent tous remplis d'espérance et leur désir devint plus ardent. Les lieux étroits où ils demeuraient dans la tente parurent se dilater. Eux-mêmes furent rafraîchis par un souffle d'air, un rayon de lumière, une rosée de la rédemption qui passa avec la rapidité d'un vent impétueux. Le Sauveur pénétra entre ces deux cercles dans un lieu enveloppé de brouillard où se trouvaient Adam et Ève. Il leur adressa la parole et ils l'adorèrent avec un ravissement inexprimable. Alors Jésus, au cortège duquel s'étaient joints nos premiers parents, entra dans les limbes des patriarches qui avaient vécu avant Abraham. C'était comme un purgatoire, car il y avait là de mauvais esprits qui tourmentaient quelques-unes de ces âmes. Les anges frappèrent et ordonnèrent d'ouvrir. Il y avait une entrée, car on pouvait y pénétrer, et une porte, car on ne pouvait en sortir à son gré. Il était nécessaire de frapper à la porte parce qu'on devait annoncer son arrivée. Il me sembla que les anges criaient « Ouvrez, ouvrez les portes !» Et Jésus entra en triomphe. Les mauvais anges reculèrent devant lui en criant « Que nous veux-tu? Que viens-tu faire ici ? Veux-tu aussi nous crucifier ? » Les anges les enchaînèrent et les chassèrent devant eux. Les âmes qui habitaient cette partie des limbes n'avaient qu'une notion vague de Jésus. Il se découvrit à elles et ses âmes le glorifièrent. L'âme du Seigneur se rendit ensuite vers le cercle de droite où étaient les limbes proprement dits. Il y trouva l'âme du bon larron que les anges portaient dans le sein d'Abraham et celle du mauvais larron qui descendait au fond des enfers poussé par les démons. L'âme de Jésus leur adressa quelques paroles, puis, entourée des anges, des âmes délivrées et des mauvais esprits enchaînés, elle pénétra dans le sein d'Abraham. Ce lieu me parut situé au-dessus de l'autre. Les démons ne voulaient pas y entrer, mais ils furent contraints par les anges d'y pénétrer. Tous les saints d'Israélite se trouvaient dans ce lieu. À gauche étaient les patriarches, Moïse, les juges et les rois. À droite, les prophètes et les ancêtres de Jésus, avec leurs parents jusqu'à Joachim, Anne, Joseph, Zacharie, Élisabeth et Jean. Il n'y avait pas de mauvais esprit dans cette partie des limbes, et on n'y éprouvait aucune peine, si ce n'est le désir ardent de voir l'accomplissement de la promesse. Maintenant, ce désir était satisfait, et toutes ces âmes éprouvaient un bonheur indicible à saluer leur Rédempteur et à lui offrir leurs adorations. Beaucoup d'entre elles reçurent l'ordre de revenir sur la terre et de reprendre leur corps afin de rendre témoignage au Sauveur. Ce fut alors qu'on vit à Jérusalem tant de morts sortir de leurs tombeaux. Après avoir ainsi rendu témoignage au Seigneur, ces âmes quittèrent de nouveau leur corps. Je vis ensuite le cortège triomphal du Seigneur pénétrer dans une sphère plus profonde, où se trouvaient, comme dans un purgatoire, les pieux païens qui avaient pressenti la vérité et avaient désiré la connaître. Comme ils n'avaient pas abandonné leurs idoles, de mauvais esprits étaient répandus parmi eux. Je vis les démons contraints d'avouer leur fraude, et ces âmes adoraient le Seigneur avec une joie touchante. Là encore, les démons furent enchaînés et chassés. Je vis aussi le Rédempteur traverser plusieurs autres parties des limbes et délivrer les âmes qui s'y trouvaient, mais mes souffrances ne permettent pas de tout raconter. Je le vis enfin comme un juge sévère, s'approcher de l'enfer qui était au fond de l'abîme. L'enfer m'apparut sous la forme d'une voûte immense, taillée dans le roc, et d'un aspect épouvantable. Les ténèbres y régnaient partout, et l'on n'y voyait qu'une lueur très faible, comme d'un reflet métallique. On apercevait à l'entrée d'énormes portes noires, dont la seule vue faisait frémir. Les portes furent enfoncées. Un hurlement d'horreur se fit entendre, et l'horrible monde des ténèbres apparut. Le séjour des bienheureux m'apparaît ordinairement sous la forme de la céleste Jérusalem, comme une ville composée de châteaux magnifiques, placés au milieu de jardins pleins de fleurs et de fruits merveilleux, et dont la beauté varie suivant les degrés de béatitude de ceux qui les habitent. Je vis de même l'enfer sous la forme d'un assemblage d'hommes demeurant dans des maisons au milieu des champs. Mais tandis que dans le séjour des bienheureux, tout est ordonné selon les lois de la béatitude parfaite, de l'harmonie éternelle et de la paix infinie. Dans l'enfer, au contraire, tout est désordonné, car il n'y règne que le discorde, la haine et le désespoir. Dans le ciel, ce sont des édifices admirablement beaux et transparents, séjours du bonheur et de l'adoration, avec des jardins remplis de fruits merveilleux, qui sont la nourriture des élus. Dans l'enfer, ce sont d'affreuses cavernes où règnent les ténèbres, séjours du désespoir et de la malédiction. Ce sont des déserts, des marais, pleins de tout ce qui peut exciter le dégoût et l'horreur. Ici, la discorde haineuse des réprouvés, là, l'union bienheureuse des saints. Ici, tous les genres de perversité et de mensonges sont punis par un nombre infini de tourments. Tout y est désolation. Sauf la pensée que chacun doit, selon la justice divine, moissonner ce qu'il a semé par ses péchés. On y voit l'essence infernale du péché démasqué, de ce serpent qui dévore ceux qui l'ont nourri dans leur sein. Tout cela peut se comprendre, mais il est impossible d'exprimer tous ces détails. Lorsque les anges eurent ouvert les portes, ce fut comme un chaos de plaintes, d'imprécations, de hurlements et d'injures. Les anges renversèrent des armées entières de démons. Tous furent contraints de reconnaître et d'adorer Jésus, et ce fut pour eux un cruel supplice. La plupart furent enchaînés. Au milieu de l'enfer était un abîme de ténèbres. Lucifer y fut jeté chargé de chaînes, et de noires vapeurs s'étendirent autour de lui. J'appris que Lucifer doit être déchaîné pour un temps, 50 ou 60 ans, avant l'an 2000, si je ne me trompe. Quelques démons doivent être déchaînés de temps en temps, pour punir et tenter le monde. Je crois que quelques-uns l'ont été de nos jours, d'autres le seront bientôt après. Je vis ensuite des troupes innombrables d'âmes rachetées sortir du purgatoire et des limbes, et accompagner Jésus dans le paradis, où l'âme du bon larron vit le Seigneur selon sa promesse. J'ai vu le Rédempteur en différents endroits, et jusque dans la mer. Il semblait sanctifier et délivrer toute la création. Je vis aussi son âme dans le tombeau d'Adam sous le calvaire. Les âmes de nos premiers parents vinrent l'y trouver, et il s'entretint avec elles. Avec elles, il visita les tombeaux de plusieurs prophètes, dont les âmes vinrent se joindre à lui près de leurs ossements. Partout, les mauvais esprits fuyaient devant lui et se précipitaient dans l'abîme. Puis, avec cette troupe d'élus dont David et plusieurs prophètes faisaient partie, je le vis se rendre en plusieurs lieux témoins de ses miracles ou de ses souffrances, leur expliquer les événements figuratifs qui étaient arrivés durant leur vie et appliquer à ces âmes les mérites de leur accomplissement. j'étais singulièrement touché de voir l'âme du Seigneur, inondée de lumière et entourée de ses bienheureux, traverser la terre, les rochers, les airs et les eaux. Voilà tout ce que je me rappelle de mes visions sur la descente de Jésus aux enfers et sur la délivrance des âmes des justes. Mais outre cette vision d'un fait accompli dans le temps, je vis une image de la miséricorde éternelle qu'il exerce envers toutes les âmes. Chaque année, au jour où l'Église célèbre cet événement, il jette un regard libérateur dans le purgatoire. Aujourd'hui même, au moment où j'ai eu cette vision, il a délivré quelques-unes des âmes qui l'avaient outragé lors de son crucifiement. J'ai vu aujourd'hui la délivrance de beaucoup d'âmes qui me sont en partie connues, mais que je ne nomme pas. La descente de Jésus aux enfers est l'accomplissement de plusieurs figures des temps anciens. Elle est en même temps un symbole qui s'accomplit par le rachat de toutes les âmes élues. Elle est aussi la plantation d'un arbre de grâce, destiné à communiquer ses mérites aux âmes en souffrance, et la rédemption continuelle de ces âmes est le fruit que porte cet arbre dans le jardin spirituel de l'Église. L'Église militante doit cultiver cet arbre précieux et en recueillir des fruits pour soulager l'Église souffrante, qui ne peut rien faire pour elle-même. Il en est ainsi de tous les mérites du Christ. Il faut travailler avec lui pour y avoir part. Nous devons manger notre pain à la sueur de notre front. Tout ce que notre Seigneur a fait pour nous dans le temps porte des fruits éternels. Et nous devons les recueillir nous-mêmes dans le temps, afin de pouvoir en jouir dans l'éternité. L'Église est un père de famille accompli. Son année est le jardin qui produit dans le temps tous les fruits éternels. Il y a dans un an assez de tout, pour tous. Malheur aux jardiniers paresseux et infidèles, s'ils laissent se perdre une grâce qui aurait pu guérir un malade, fortifier un faible, rassasier un affamé. Ils rendront compte au père de famille du plus petit brin d'herbe au jour du jugement.